La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Aucun livre nulle part dans le monde n'a jamais été écrit sur le sujet. Les médias ne se bousculent pas d'ailleurs en général pour en parler. Le microbiote vaginal fait partie de ces thèmes qui restent encore tabous et pourtant, passé les réactions hésitantes, eh bien la flore vaginale, c'est un écosystème à part entière à comprendre, très souvent méconnu et de la part des femmes d'ailleurs elles-mêmes. C'est l'objet de notre tête au carré à l'occasion de la publication donc du tout premier ouvrage sur la question « Microbiote vaginal, la révolution rose ». On verra pourquoi dans un instant avec mes invités qui vont répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, un rapport sur les mathématiques pour améliorer l'enseignement de cette discipline mal aimée.
Et oui, un rapport présenté hier par Cédric Villani et qui va dans le bon sens, selon notre invité, le mathématicien Jean-Pierre Demailly. Mais il y a du pain sur la planche, il va nous le dire dans un instant.
Et puis, dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format sur France 5 avec un documentaire aujourd'hui consacré au Machu Picchu. Ce site, un cas totalement hors du commun. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le microbiote vaginal, ce sera donc le thème dans un instant de notre dossier. Et pour en parler, je reçois la journaliste santé Rika Etienne et le médecin infectiologue Jean-Marc Bobo. Bonjour à vous
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Bienvenue Rika Etienne, les femmes ont un trésor en commun, c'est leur microbiote vaginal.
Absolument, un microbiote vaginal. Ouais. On ose le dire sans baisser la voix.
Oui, absolument. Oui. Ouais. Et ça fait peu de temps qu'on le sait, au fond. Hein.
Ça fait peu de temps. Disons que Jean-Marc est confronté à ce microbiote depuis une décennie ou deux, j'ai l'impression, mais que les études se multiplient vraiment depuis 5 ans. Donc ça fait vraiment peu de temps. Et à tel point que c'est pas encore passé dans le... Enfin, même dans la connaissance des médecins. Hein. Eux-mêmes.
Jean-Marc Bobo, vous allez nous parler d'un sujet totalement méconnu, donc méconnu ou tabou d'ailleurs, il y a un peu des deux. Hein.
Dans le milieu scientifique, c'est pas tabou. Au contraire, c'est plein d'espoir, puisque à la consultation que j'assure à l'Institut Fournier depuis 40 ans maintenant, je constate, comme tous les gynécologues, que les traitements classiques, en particulier pour les infections gynécologiques, sont décevants, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les antifongiques. Ils donnent des résultats à court terme, mais à long terme, on a des récidives. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi tous ces échecs. Et la science nous a aidés, puisque depuis une quinzaine d'années, on parle des microbiotes. On a commencé par l'intestin,
c'est vrai.
On commence à connaître un peu mieux le vagin et on trouve des réponses.
On parlera beaucoup d'hygiène aussi avec vous
hein,
dans ces problèmes récurrents et dans les bons gestes. On se retrouvera donc dans un instant avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Relever le niveau des élèves français en mathématiques, un rapport remis hier au ministre de l'Éducation et un chantier important aujourd'hui à la une de la science.
Aujourd'hui, apprenons les tables de multiplication par 2, 3 et 4. C'est parti pour la 2.
2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8.
Les multiplications, c'est facile, faut se lancer avec une belle chanson. Tu vas y arriver.
Voilà, 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, peut-être en chanson. En tout cas, c'est le titre du rapport, c'est 21 mesures pour présenter justement ce constat. C'est ce qu'a fait le député mathématicien Cédric Villani avec Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation nationale. En tête des préoccupations, eh bien, c'est le primaire justement. Et on fait le tour de ce document avec notre invité, Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec le mathématicien Jean-Pierre Demailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes, membre de l'Académie des sciences et président du GRIP. C'est le groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes. Alors, dès la première page du rapport, le ton est donné. Le niveau des élèves français en maths est qualifié de catastrophique. Vous partagez, pour commencer, cet avis ?
Oui, malheureusement, il y a de graves problèmes actuellement qui commencent dès l'école primaire et qui se répercutent ensuite à tous les niveaux, collège, lycée, université. Donc on assiste un spectacle un peu désolant d'élèves qui sont laissés en friche, en quelque sorte, dont on n'exploite pas les capacités mentales dans la mesure du possible. Et donc, on aboutit à un système sous-performant, notamment par rapport à la compétition internationale.
Ben justement, Jean-Pierre Demailly, c'est quand même assez paradoxal, parce qu'on a les meilleurs mathématiciens au monde, hein, et puis au niveau de l'école, c'est vraiment pas terrible du tout.
Oui, en effet, c'est un paradoxe, mais il faut voir que, en réalité, les mathématiques françaises, au niveau de la recherche la plus avancée, ça constitue une toute petite communauté. C'est de l'ordre de quelques dizaines d'individus par an, dans une promotion de chercheurs. Mmh. Et ces gens-là, en général, bénéficient de conditions beaucoup plus favorables que les autres, par l'imprégnation familiale ou des contacts rapprochés avec des scientifiques. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait ce divorce entre l'enseignement général pour tous et puis l'enseignement pour des élites scientifiques.
Jean-Pierre Demailly, depuis quand ce niveau en maths à l'école a commencé à baisser? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, mon analyse, c'est que on a eu pendant très longtemps un enseignement relativement stable des mathématiques et d'ailleurs aussi de l'ensemble des disciplines scolaires, depuis l'école de Jules Ferry jusqu'aux grandes réformes la fin des années 60. Donc, on a eu à ce moment-là la réforme des mathématiques modernes, qui a conduit, notamment dans les premiers niveaux, à un enseignement beaucoup trop formel et beaucoup trop abstrait. Mmh. Et à la suite de ça, il y a eu des réformes en retour de balancier, si je peux dire, notamment à partir de 1985, la réforme Jevènement, et puis après les diverses réformes Jospin, Allègre, puis les réformes des années 2000. Et donc toutes ces réformes ont conduit à des régressions des programmes et des contenus, et aussi l'adoption de méthodes d'enseignement inadaptées.
Ça veut dire que le rapport tout juste, il faut commencer par le primaire, par les premiers niveaux?
Oui, je crois que c'est absolument fondamental. Le primaire, tout le monde le comprendra, c'est le niveau sur lequel tout s'appuie. Les premiers enseignements sont décisifs puisqu'ils peuvent orienter le goût et les objectifs des élèves. Et si on dégoûte les élèves dès le début, si on les met en difficulté, évidemment, ils n'ont aucune appétence pour le sujet ensuite.
Alors, dans le rapport, c'est le niveau des professeurs des écoles qui est pointé du doigt en sciences et en mathématiques. C'est si catastrophique que ça ?
Je pense effectivement que c'est assez catastrophique, hélas. L'une des raisons principales est que 80 à 85% des professeurs d'école sont issus de filières, notamment littéraires, où la formation aux sciences est trop faible en termes d'horaire déjà. Souvent, les professeurs d'école reprennent une formation en sciences et en mathématiques à l'issue de leur master, après une interruption de 4 à 5 ans. Donc ils ont oublié énormément de choses. Ils n'ont, à mon avis, pas les bases nécessaires pour avoir du recul et enseigner les mathématiques de façon efficace. Surtout qu'on ne les aide pas assez. Enfin, il n'y a pas assez de documents bien faits. Les manuels scolaires sont de très, très mauvaise facture. Les méthodes proposées ne sont pas les bonnes.
Ça veut dire que c'est la fibre mathématique qui ne passe pas ? C'est ce qui fait le lien de la personnalité de l'enseignant ?
Non, je ne pense pas. Je pense simplement que l'école a oublié, en quelque sorte, peu à peu, les méthodes les plus efficaces. Et donc nous, au GRIP, groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, on a réfléchi à de tels contenus d'enseignement. Et on a mené une expérimentation scolaire, donc qui s'appelle SLEC, savoir lire, écrire, compter, calculer, pendant une dizaine d'années, où on a expérimenté dans quelques dizaines de classes chaque année des méthodes inspirées de l'école de Jules Ferry, si on peut dire, mais enfin remises évidemment au goût du jour avec des méthodes d'édition moderne. Et ça marche fort bien. On a eu des élèves a priori sociologiquement complètement aléatoires qui ont eu des résultats extrêmement élevés aux évaluations nationales. Donc ça marche avec tout le monde. Ça marche même avec des gens dans des zones sociologiques peu favorisées.
C'est une proposition de votre association qui a été reprise, apprendre à compter et à calculer en même temps. Pourquoi c'est important ?
Alors c'est très important et ça c'est un point qui a été oublié dans les programmes depuis plusieurs décennies. C'est qu'en réalité, on apprend bien à compter que en manipulant en même temps les nombres, dès le plus jeune âge, ça peut commencer même à l'école maternelle, mais en tout cas au cours préparatoire, il n'y a aucun obstacle à introduire simultanément la numération et les quatre opérations, à condition de le faire petit à petit, sur des tout petits nombres. Donc par exemple, si on a le nombre 7, on peut même aborder la division, par exemple, c'est 2 fois 3 plus 1, on peut faire 2 paquets de 3 et il reste 1. Les opérations, les 4 opérations s'introduisent de manière très très progressive dès le cours préparatoire. Surtout, il faut aussi les lier avec les grandeurs. Parce que les êtres humains vivent dans un univers physique, ont une intuition des grandeurs, hein, les longueurs, les airs, les volumes, ou d'autres quantités, température, etc. Et faire le lien entre le calcul et les unités de grandeur du monde qui nous entoure, ben, c'est quelque chose de fondamental. Donc on ne doit pas seulement manipuler des nombres abstraits, si je peux dire, on doit aussi manipuler des unités de longueur, et ensuite des vitesses. Voilà, et donc on fait le lien avec la physique, on fait le lien avec les autres sciences. C'est extrêmement important d'avoir cette synergie entre l'enseignement du calcul et l'enseignement des autres sciences.
Merci beaucoup Jean-Pierre Demailly en tout cas pour vos commentaires autour de ce rapport rendu hier par Cédric Villani et qui est beaucoup commenté aujourd'hui. Merci à vous. Axel, demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, EDF et l'ASN, l'agence de sécurité nucléaire, qui veulent construire une piscine de déchets radioactifs à Belleville-sur-Loire, dans le Cher. Selon le magazine Reporter.net qui dévoile cette information, le site a d'ores et déjà été choisi pour accueillir à terme plus de 6000 tonnes de métal lourd irradié, chaud et hautement radioactif. L'intention de construire une nouvelle piscine de stockage en plus de celle de la Hague qui déborde est bien réelle chez EDF, mais sa localisation définitive n'a pour l'instant pas été confirmée officiellement. Un projet à haute tension et à haut risque qui se prépare donc secrètement, comme le déplore le magazine Reporter. L'astéroïde interstellaire Oumuamua, qui a décidément une drôle de trajectoire, détecté en octobre dernier, il est le premier objet interstellaire, c'est-à-dire venu de l'extérieur de notre système solaire, à être découvert depuis la Terre. Des chercheurs de Belfast ont étudié sa trajectoire et ses rotations depuis 4 mois et arrivent à la conclusion que l'astéroïde tourne très bizarrement sur lui-même. Au lieu d'avoir une rotation régulière comme beaucoup de petits corps, il culbute de manière chaotique. Son centre de rotation n'est pas celui de sa masse. Une danse originale, preuve pour les physiciens qu'Oumuamua a subi dans le passé de violentes collisions avant d'être éjectées vers notre soleil. Et puis manger moins vite et perdre du poids, une étude japonaise portant sur les habitudes quotidiennes de plus de 60 000 personnes montre un lien entre la vitesse d'engloutissement des repas et l'évolution du poids des participants, bien qu'ils ne peuvent pas prouver le lien direct entre ces observations. Elle s'ajoute quand même à d'autres études sur le sujet qui avaient obtenu des conclusions similaires. En conclusion justement de leurs travaux, les chercheurs conseillent aux personnes souhaitant perdre du poids de manger doucement aux heures des repas et au moins 2 heures avant de dormir. Allez, notre dialogue autour du vagin dans un instant.
Je suis l'hypothèse, l'équation, la réponse et la question. Je suis la joie, le bonheur, le triste et la douleur. Je suis la haine et l'amour, la fatigue et l'envie. Je suis le vide et la foule, la passion, le mépris. Je suis le paradoxe, l'antithèse, le singulier. Je suis le schizophrène, l'inconnu et la complexité. Je suis le paradigme qui sans cesse dans cette société doit faire des pieds et des mains pour se réinventer. Le souffle court, les yeux embués de larmes en apoplexie, à sillonner l'asphalte, brûlant au soleil du midi. Je me cherche et te cherche dans les rues, les écouteurs vissés sur les oreilles, paumés dans ce mac urbain où la voûte céleste s'élève. Et les notes mortes d'un vieux gospel résonnent, ces poumons me parviennent. Des murs d'un vieux disque à place de clichés, au travers des fenêtres d'un immeuble haussmannien, j'aperçois ton corps nu et indécis.
Et puis la nuit tombe, alors le ciel s'émerveille, les lumières plongent vers la ville vermeille. Au bras d'une riche et belle demoiselle, dans un élan d'amour, je me prosterne devant la devanture d'un kebab. Un complet du chef, s'il vous plaît, j'ai la dalle. Prénotion, le cliché, la promotion du préjugé. Je suis parisien, Télérama, le Coran et la Torah. Je suis l'athéisme et la foi, le rap et la bossa nova. Je suis la couleur, la fadeur, le noir, le blanc. Je suis le plombier, le facteur. Je suis la pute et puis le pan. Je suis tout, je ne suis rien. Je suis tout, je ne suis rien. Je suis le paradoxe, l'antithèse, le singulier. Je suis le schizophrène, l'inconnu et la complexité. Je suis le paradigme qui sans cesse dans cette société doit faire des pieds et des mains pour se réinventer. Alors nos corps sereins et endormis, trappés dans les lueurs de l'aube, murmurent encore un peu à la nuit que tout sera beau. Alors nos corps sereins et endormis, trappés dans les lueurs de l'aube, murmurent encore un peu à la nuit que tout sera beau. Quand viendra le jour? Quand viendra le jour?
Paradoxe. Team Dup à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Et si votre vagin pouvait parler
en deux mots,
qu'est-ce qu'il dirait?
Tout doux.
Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'il sent la rose alors qu'il est censé sentir la chatte. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Le purifier avec tout leur spray. Oh, fleur, oh, fouet, ou oh, à pluie. Bah, je veux pas que ma chatte sente la pluie. Toute propre comme un poisson qu'on aurait nettoyé avant de le cuire. Non, moi, je veux sentir le poisson. C'est pour ça que je l'ai commandé.
Voilà la voix de la comédienne Marie-Christine Adam dans Les Monologues du Vagin, l'une des très nombreuses interprètes de cette pièce qui a d'ailleurs repris depuis hier à Paris avec Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot, Myriam El-Khomri, donc les ministres aussi ont envie de parler de vagin et c'est le cas cet après-midi également dans notre tête au carré à l'occasion donc de la publication d'un ouvrage, le tout premier dans le monde qui s'intéresse à ce microbiote vaginal, cette flore bactérienne totalement méconnue. Jean-Marc Bobo, Erika Etienne, vous en êtes les auteurs de cet ouvrage qui sort aux éditions Marabout. Jean-Marc Bobo, vous êtes médecin infectiologue et spécialiste des infections génito-urinaires et directeur médical à l'Institut Fournier. On peut dire juste un mot de votre nom de famille, parce que s'appeler Bobo quand on est médecin, déjà, c'est pas mal. Mais vous me disiez en plus, hors antenne, que Bobo, ça veut dire quoi en créole ?
Oui, ça veut dire vagin.
Voilà.
C'est un jour, un des élèves de l'Institut Fournier qui venait en stage, qui venait de Haïti, et qui m'a dit, je suis content que ce soit vous qui fassiez le cours sur le vagin, parce que chez nous, Bobo, ça veut dire vagin.
Incroyable.
Donc c'était c'est une prédestination.
C'est un sujet qui vous poursuit. Rika Etienne, vous êtes journaliste santé, et vous allez répondre donc aux questions des auditeurs qui nous rejoignent déjà sur le site franceinter.fr. Alors justement, vous avez épluché, avant d'écrire ce livre, toute la littérature scientifique. Aucun livre, nulle part, n'a jamais été écrit alors sur le microbiote vaginal. Parce que
oui,
sur le vagin, on peut trouver évidemment des ouvrages, oui, mais sur ce thème du microbiote, c'est très récent. Hein.
Cocorico quand même, ouais, oui, c'est vrai, c'est le premier livre. Par contre, vous noterez que dans le livre, il y a référence à très très nombreuses études scientifiques.
Absolument.
Que Jean-Marc a exploré comme il se doit.
Ouais. Et pour vous, en tant que journaliste aussi, ça a été une découverte de travailler sur ce thème, sur cette flore?
Ça a été, oui. J'avoue que j'avais déjà écrit plusieurs, co-écrit vraiment, avec un autre auteur, Sylvain Mimoun, beaucoup sur la sexualité, mais que de tourner autour du sujet comme ça et de découvrir la flore vaginale et l'importance qu'elle-même pouvait avoir sur déjà le confort intime de la femme, mais aussi sur sa sexualité, vraiment j'avais l'impression que là, j'avais trouvé la dernière pièce du puzzle.
Ouais, il y a la sexualité.
Et que tout s'emboîtait, quoi.
Et il y a la santé aussi.
Hein. La santé, bien sûr. Parce que, évidemment, quand on n'a pas la santé, la sexualité, ça devient beaucoup plus compliqué.
Ouais. Alors, justement, Jean-Marc Bobo, ça ne fait que très peu de temps que les chercheurs connaissent à la fois le microbiote, hein, avec celui intestinal qui a été largement popularisé. Et alors, on en connaît encore moins sur le microbiote vaginal aujourd'hui.
Oui, alors moi, je me suis amusé à colliger le nombre de publications scientifiques depuis qu'on parle du microbiote dans les années 2000. En 2000, je crois que je parle d'articles scientifiques. Il y a eu 135 articles publiés. En 2016, on est passé à 6900 articles publiés. Mais pour le vagin, uniquement 150.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose de très récent. On a beaucoup travaillé sur le microbiote intestinal. On travaille beaucoup et de plus en plus sur le microbiote vaginal, qui est finalement beaucoup plus simple que le microbiote intestinal, parce que l'intestin, c'est quelque chose de très compliqué. Mais c'est vrai que le fait de travailler sur ce microbiote vaginal, ça permet de commencer à donner des pistes pour soulager les femmes, pas simplement pour les infections, mais pour leur vie de tous les jours et la sexualité, bien sûr.
Et les chiffres sont absolument hallucinants, puisque vous dites que chaque année dans le monde, des centaines de millions de femmes sont atteintes par des infections urinaires ou vaginales. Un milliard d'infections à peu près, c'est ça ?
Il y a un milliard d'infections féminines, vaginales ou urinaires dans le monde, et l'immense majorité, c'est lié à un déséquilibre de ce qu'on appelait autrefois la flore vaginale, qu'on appelle le microbiote.
Ouais, donc on a tout à apprendre sur cette question. Et les chercheurs, les premiers, hein.
Ah oui, ben c'est là, il y a, dans le monde, tout le monde se précipite sur ce petit vagin, si j'ose dire, pour essayer d'en découvrir les secrets, et ça commence à venir. Mais le problème, c'est que le vagin est un organe qui est très dual, c'est-à-dire que c'est à la fois la protection contre les organes internes, ça va protéger l'utérus, les ovaires, qui sont des organes nobles, puisque c'est eux qui vont permettre la procréation. Mais en même temps, il y a cette fonction qui rend le vagin tabou, c'est la fonction de plaisir. Et c'est vrai que la dualité de ce vagin, ça pose des problèmes en communication, parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas toujours facile d'en parler.
Eh ben, c'est le moment de s'y atteler, voilà. Absolument. Et c'est la première émission qu'on fait sur le sujet, et votre livre va y participer, certainement pour aider à populariser cette question. Comment justement ces découvertes sur la flore peuvent transformer la santé intime? Pourquoi vous parlez d'une révolution? Parce qu'on emploie ce mot parfois un petit peu n'importe comment, mais là vous dites que en matière de gynécologie, on est vraiment dans une révolution pour les femmes.
Franchement, moi j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une véritable révolution, parce que on change de paradigme. C'est-à-dire que grâce à la prise en compte du microbiote vaginal, les médecins, les pharmaciens vont commencer à voir les traitements autrement. C'est-à-dire qu'auparavant, on prescrivait l'argamanu des antiseptiques qui étaient donc tellement efficaces que c'est comme si on tirait à la Kalachnikov sur des germes. Et le problème, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on reprogramme la crise suivante. Ils étaient tellement efficaces qu'ils tapaient très fort sur la flore vaginale et qu'ils tapaient parfois trop fort. Alors, je ne dis pas, et vraiment c'est sous le contrôle de l'infectiologue, je ne dis pas qu'il ne faille pas utiliser de temps en temps un antimycosique ou un antibiotique, mais pas aussi systématiquement, et en tout cas pas sans les accompagner de protections naturelles qui sont les probiotiques et qui vont venir aider la flore à faire son boulot.
Ah oui, c'est vraiment éloge des probiotiques d'ailleurs, votre ouvrage.
Ah oui, j'avoue.
Hein.
Oui. J'avoue, mais je n'en suis pas responsable.
Non, mais on a l'impression qu'on va trouver toutes les solutions grâce aux probiotiques quasiment.
Alors, je ne dirais pas ça, parce que c'est la flore vaginale, hein, Jean-Marc, t'es d'accord, qui fait le boulot, mais ça vient en renfort de cette...
Imaginer que les probiotiques vont tout résoudre, hein. C'est pas du tout le but de l'opération, c'est simplement dire que ces probiotiques doivent participer à une prise en charge plus globale. C'est une arme thérapeutique supplémentaire, une arme préventive supplémentaire, mais il faut pas imaginer qu'avec les probiotiques, on va résoudre tous les problèmes.
Alors justement, il y a beaucoup de parallèles à faire entre le microbiote intestinal et vaginal. Est-ce que le fonctionnement est assez similaire ou pas du tout? On est dans deux écosystèmes qui ne se ressemblent pas.
On est dans deux écosystèmes qui sont fondamentalement différents, même si de temps en temps il y a des points communs. Et les points communs, c'est que ces microbes n'ont pas simplement un rôle de protection en empêchant des microbes, alors je parle des microbes bénéfiques qu'on a dans le vagin, en empêchant d'autres microbes de développer, ils ont la possibilité aussi d'agir sur l'immunité, c'est-à-dire sur les défenses. Et ça, c'est quelque chose de commun à l'intestin et au vagin. Mais maintenant, les bactéries protectrices que l'on trouve dans l'intestin et dans le vagin sont complètement différentes. D'où cette mode qui vient de Californie de se mettre du yaourt dans le vagin. C'est sûr que ça ne marchera jamais.
Qu'est-ce que c'est que cette mode? Pardon.
Ben, on s'est dit que la flore de protection du vagin, c'est ce qu'on appelle des lactobacilles.
Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà.
Et donc, comme on a dans
déjà
les yaourts,
on en trouve aussi
dans les yaourts.
Mais le problème, c'est que les lactobacilles que l'on trouve dans les yaourts sont très bons pour l'intestin, n'ont aucun effet pour le vagin. Donc, il faut se garder les yaourts pour autre chose. Ouais.
C'est hallucinant ce qui circule d'ailleurs sur Internet. Quand on s'intéresse un tout petit peu à la question, les préconisations sont parfois plus farfelues les unes que les autres. Alors, une question intéressante d'Alain qui aimerait savoir si lors de l'accouchement, il y a une modification du microbiote vaginal. Il s'y joue un rôle sur le développement du bébé au moment du passage. Parce que là, il y a plein de choses aussi autour des bactéries.
Bien sûr. Alors ça, c'est un point tout à fait fondamental. Alors déjà, on sait que pendant toute la grossesse, le microbiote de la femme enceinte est beaucoup plus stable qu'en dehors de la grossesse, puisqu'il n'y a pas d'épisode de règles. Et que le passage dans les voies génitales, dans le vagin, le passage du bébé dans le vagin, c'est ça qui va lui donner les premières armes de défense. Et on a fait des travaux sur la différence entre l'immunité des nouveau-nés qui étaient nés par césarienne et ceux qui sont nés par voie basse, c'est-à-dire par accouchement vaginal. Et on s'est aperçu qu'il y avait des différences fondamentales qui peuvent aller au fil des années jusqu'à l'apparition de maladies comme le diabète, comme l'obésité. Donc il y a un rôle fondamental protecteur du vagin.
C'est une sorte de barrière déjà que la mère donne à son enfant au moment de l'accouchement.
Voilà, et d'où cette tradition que l'on voit un petit peu apparaître dans les pays anglo-saxons qu'on voit en France, pour les enfants qui accouchent par césarienne, de ce qu'on appelle le vaginal seeding, c'est-à-dire que l'on va tremper une petite compresse dans le vagin des femmes, et puis on va badigeonner la bouche du nouveau-né pour essayer de lui redonner un ersatz de défense vaginale. Mais c'est vraiment très spectaculaire de voir la différence de défense entre un enfant né par césarienne et un enfant par voie basse.
Microbiote vaginal, c'est aux éditions Marabout, on en parle avec vous dans La Tête au Carré. Angel Fire, Holly Cook, à l'instant.
On en a fini avec le pénis et nous pouvons passer à la... de...
la vulve.
La tête au carré.
Microbiote vaginal au programme de La tête au carré cet après-midi avec le docteur Jean-Marc Bobo et la journaliste santé Rika Etienne et vos messages sur franceinter.fr. Justement, il y a Nicolas qui nous demande, puisqu'on parle du microbiote vaginal, est-ce qu'il existe un microbiote du pénis, Rika Etienne ?
Eh oui. Mais d'après ce que me disait Jean-Marc, il était beaucoup moins développé que celui des femmes. Il en reste.
Oui, c'est
oui, il y en a.
On a moins de terminaisons nerveuses aussi hein, par rapport aux femmes.
Par rapport aux femmes, oui, enfin, c'est très variable d'un homme à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de terminaisons nerveuses. Il y a aussi moins de surface, hein, donc c'est un petit peu logique. Au millimètre carré, il y a moins de terminaisons nerveuses, oui.
Alors, ce microbiote du pénis, pardonnez-moi si on fait une petite parenthèse, mais il est donc beaucoup plus petit que le microbiote vaginal.
Alors, c'est pas tellement une question de quantité, c'est une question de nombre de bactéries, c'est-à-dire de diversité bactérienne. Donc, on est beaucoup plus près de ce que l'on trouve au niveau de la peau que ce que l'on peut trouver au niveau du vagin, puisque le vagin est une cavité interne, et donc là, microbiote est différent. Mais ces deux microbiotes sont appelés à se rencontrer de temps en temps.
Alors c'est ça, justement, Rika Etienne. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre des pH entre le microbiote du vagin et du pénis ?
Il peut y avoir une guerre des pH, il peut y avoir une guerre des microbiotes. Mais en fait, est plutôt sympathique et pacifique, ce qui est un oxymore, mais quand même. Parce que le pH du sperme est de 7, le pH du vagin est de 4,5. On pourrait s'attendre à des réactions explosives entre les deux partenaires, ce qui heureusement n'est pas le cas parce que ça voudrait dire que l'espèce humaine serait vouée à l'extinction. Assez vite, les lactobacilles qui sont dans le vagin vont pomper du glycogène, vont transformer tout ça en acide et réacidifier la cavité vaginale qui doit rester acide. Et donc, au bout de quelques temps, je ne sais pas, une demi-heure, Jean-Marc ?
Une demi-heure à peu près.
Assez vite. Donc, tout ça va être rééquilibré. Et le vagin, après l'acte sexuel, va retrouver une ambiance locale tout à fait sympathique, acide et normale.
Ouais. Pourquoi justement ça doit rester acide, cette cavité, docteur Bobo ?
Alors, dans un vagin, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale. 90% de ces germes sont des bactéries qui sont des bactéries protectrices, qu'on appelle des lactobacilles. Mmh. Et puis, il y a 5 à 10% d'autres bactéries qui ne peuvent pas se développer tant que le pH est acide. À partir du moment où le pH devient un peu plus alcalin, c'est-à-dire pour le vagin, alcalin, c'est au-dessus de 4,5, eh bien, les autres bactéries peuvent se développer, et là, il y a des infections qui peuvent apparaître. Donc, l'acidification du vagin, c'est un mode de protection, l'un des modes de protection, il y en a plein d'autres, mais c'est un mode de protection fondamental.
Rika Etienne, d'où vient ce mot vagin ? Parce que vous le racontez aussi dans le livre, au détour de toutes les petites informations que vous nous livrez.
Alors, ce mot vagin vient de notre ami Fallope, Gabriel Fallope, qui a vécu durant la Renaissance.
Ouais.
Et donc, c'était pas un grand macho qui avait un cheveu sur la langue, je vous rassure. Mais c'est lui qui a inventé le terme de vagina, qui est devenu vagin par la suite. Et il a été très sympathique également pour tout le genre humain, puisqu'il serait à l'origine de la première utilisation du préservatif.
Ouais. Et il a aussi découvert le clitoris, c'est lui qui s'y est intéressé.
Juste avant de mourir.
Voilà. Donc retenons son nom, cet homme a fait beaucoup de choses, Monsieur Fallope, 1523-1562.
On lui rend hommage sans problème.
D'ailleurs, on lui a déjà rendu hommage, puisqu'il y a ce qu'on appelle, au-dessus de l'utérus, il y a ce qu'on appelle les trompes de Fallope. Les trompes de l'utérus qui vont amener l'œuf jusqu'à la cavité utérine s'appellent les trompes de Fallope.
Eh bien voilà.
Donc la notoriété est assurée.
Exactement. Un petit cours d'anatomie, justement,
Oui, alors sur le vagin, c'est un organe qui est très petit, mais qui est parfaitement extensible pour s'adapter, bien sûr, aux conditions sexuelles.
Ou à la naissance d'un enfant.
Pendant la naissance d'un enfant, il va se rétracter complètement. Mais il faut savoir que le vagin, moi j'ai tendance à dire que c'est le début et l'infini, puisque
c'est beau.
Ben oui, le début, c'est par là que les spermatozoïdes vont pénétrer. Et puis la fin, c'est aussi le début, puisque c'est la première fenêtre sur l'univers que va découvrir l'enfant. Et donc, je trouve qu'il y a une connotation très importante du vagin que l'on oublie un peu. Et pour moi, c'est très important.
Rika.
Et je voulais ajouter que quand Etienne. Même Jean-Marc Bobo est le seul homme que j'ai entendu parler du vagin en des termes si magnifiques. Il est capable de vous dire que quand un vagin va bien, qu'il est rose, qu'il est moelleux, qu'il est étincelant, c'est la galerie des glaces à Versailles.
Ah oui, carrément. Oui.
Et que quand il est déséquilibré et que la pauvre patiente va mal, c'est un petit peu sec, c'est un peu terne, c'est gris et il est vraiment très malheureux pour la patiente. Mmh. C'est joli quand même.
C'est magnifique. C'était presque un cours d'astrophysique d'ailleurs que vous nous avez donné là à l'instant, en parlant de l'univers et de l'infini. Les poils de la vulve sont là pour protéger cette zone fragile et l'épilation totale n'est pas recommandée.
Apparemment, Jean-Marc est très hostile effectivement à l'épilation, mais je pense qu'il a de bonnes raisons.
On va écouter un petit sujet d'abord et puis on va commenter ça juste après. Cet extrait du journal de BFM TV il y a 2 ans.
Pour cette jeune femme, c'est devenu une évidence.
Les aisselles, le maillot, intégral.
Épilation intégrale, la guerre aux poils est déclarée.
Je peux pas me voir avec des poils. Je trouve que c'est pas propre.
Chez les moins de 25 ans, la pratique est courante, adoptée par quasiment une jeune femme sur deux. Cette esthéticienne confirme.
Maintenant, c'est de plus en plus répandu. Ça commence à 16 ans, maintenant les très jeunes.
Alors, cette pratique est-elle risquée? Pas du tout. Rassure cette dermatologue.
Il n'a jamais été démontré que ces poils à cet endroit-là étaient réellement indispensables. En tout cas, il n'y a pas de pathologie au niveau des organes génitaux dû au fait qu'on s'épile intégralement.
Ah là là, docteur Bobo, là vous allez reprendre cette dermatologue. Hein.
Oui, ouais. Parce que il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a de plus en plus de publications internationales qui montrent qu'il y a une augmentation du nombre de maladies sexuellement transmissibles directement liées à l'épilation, en particulier des maladies liées au papillomavirus, à l'herpès, à la syphilis, etc. Donc contrairement à ce que ma consoeur vient de dire, je suis obligé de démentir et de dire que l'épilation est vraiment quelque chose de très nuisible et qui favorise les infections. Mais j'aurais insisté sur le fait que, bon, l'épilation, pourquoi pas, mais ce qui est le plus dangereux, c'est l'épilation définitive, c'est-à-dire l'épilation au laser, où on va détruire le follicule pileux et on va détruire en même temps la petite glande sébacée qui est chargée de lubrifier la peau. Or, la peau a absolument besoin d'être lubrifiée, a fortiori la vulve qui est un pli, qui frotte avec les vêtements, etc. Et j'ai des jeunes filles qui viennent me voir après une épilation définitive au laser et qui seront définitivement contrainte d'utiliser des produits hydratants pour le restant de leur jour. Donc, qu'on s'épile le maillot, pourquoi pas, il y a des modes, mais surtout pas d'épilation définitive, d'une part à cause de l'infection, et d'autre part, c'est une sécheresse assurée pour le restant de ses jours.
Donc, il y a une vraie méconnaissance, là aussi, sur ce sujet.
Oui, ça commence à venir. On s'aperçoit, effectivement, il y a des dermatologues qui sont en train de faire machine arrière et de comprendre que c'est vraiment nuisible.
Donc, vous faites la chasse à l'épilation totale.
Je fais la chasse à l'épilation. Vive les poils.
Rika Etienne.
Oui, puis c'est une première protection parce que ça maintient l'hydratation locale, déjà première chose, et puis la seconde chose c'est que ça sert de tapis roulant. En fait, ce qu'on ne sait pas,
c'est ce que vous décrivez comme processus.
C'est disons que le devant est réensemencé parce qu'il vient de derrière en fait, et donc les poils permettent la migration des bons lactobacilles qui vont venir réensemencer la flore. Donc ça a vraiment un triple intérêt. Moi j'en rajouterais un quatrième, mais bon là ça n'engage que moi. Ce sont enfin des diffuseurs d'odeurs, et pendant l'acte sexuel c'est important d'avoir aussi des odeurs qui sont stimulantes, et ça a été montré par des études que ça augmentait le taux de testostérone quand vous aviez plus d'odeurs à ce niveau-là. Donc c'est se priver d'un atout
important.
Non négligeable.
Voilà. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le livre aussi. Hein. Il y a toute une liste, là, je ne retombe pas dessus maintenant, mais de femmes qui décrivent aussi les odeurs, alors qu'ils sont très très différentes les unes des autres. Oui. Hein. Et c'est extrait aussi des monologues du vagin, d'ailleurs. Hein. C'est une liste qu'on peut retrouver dans cette pièce. Une question de Zafir qui s'inquiète. Professeur Bobo, quels sont les risques dans la pratique du cunnilingus? Son avenir est-il remis en question à la lueur des dernières découvertes?
Oh, pas du tout. Le cunnilingus est une des pratiques les moins à risque, à condition, bien entendu, que les lèvres aussi bien de l'intervenant que de l'intervenu, soit indemne de toute lésion. C'est-à-dire qu'un homme qui a un chancre au niveau de la lèvre ou de l'herpès au niveau de la lèvre, il risque de transmettre la maladie lors du cunnilingus. Mais tant qu'il n'y a pas de lésion visible à l'extérieur, que ce soit l'élève du haut ou l'élève du bas, ça n'a aucun risque.
Allez, un peu d'éducation sentimentale, Maxime Le Forestier. On se retrouve juste après avec les nombreux messages qui arrivent sur franceinter.fr.
« Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. C'est au crépuscule, quand la libellule s'endort au marais, qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. Ne dis rien, ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin, j'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux.
Maxime Le Forestier sur France Inter.
La tête au carré.
Voilà, Rika Etienne et le docteur Jean-Marc Bobo, nos invités pour ce microbiote vaginal qui paraît chez Marabout, la révolution rose. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. D'ailleurs, Rika Etienne, vous constatez à quel point ce sujet, dont on parle finalement très très peu, suscite énormément de questions à chaque fois que vous organisez des rencontres autour de ce thème.
À chaque fois, je m'aperçois que les femmes, quel que soit leur âge, qu'elles soient, je sais pas, adolescentes ou qu'elles soient aux abords de la ménopause, ménopausée, enfin... en reprise de couple, etc. Toutes les femmes se sentent concernées par ce sujet. Et ben, voyant l'enthousiasme que j'ai à partager avec elles, se mettent à raconter des choses qu'elles n'osaient pas dire.
Jean-Marc Bobo, ce microbiote, il évolue tout au long de la vie, justement, d'une femme, depuis le plus jeune âge jusqu'à la vieillesse.
Alors, la petite fille, il y a un microbiote qui est très, très différent, bien sûr, puisque le microbiote de la femme adulte se développe essentiellement en présence des hormones qui vont venir à l'adolescence. Mmh. Et puis, jusqu'à la ménopause, jusqu'au moment de la ménopause, ce microbiote va rester à peu près stable. Et après la ménopause, il redevient un petit peu pauvre. Mais on sait là aussi qu'avec les nouveaux travaux, que le fait de rajouter des probiotiques, ça peut éviter pas mal de problèmes comme des sécheresses, comme l'atrophie vaginale au moment de la ménopause.
Florane demande, qu'est-ce que vous préconisez pour les mycoses des petites filles? Or, vous dites qu'elles n'en ont pas dans l'ouvrage.
Non, les petites filles peuvent pas avoir de mycoses, tout simplement parce que les champignons microscopiques qui sont responsables des mycoses ne peuvent se développer que s'il y a du glycogène, qui est un sucre qu'on trouve dans le vagin, et on ne le trouve que quand il y a des hormones. Or, manifestement, si on parle d'irritation vulvaire de la petite fille, c'est sûrement un autre problème et pas une mycose.
Nadia demande, est-ce que le tampon déséquilibre cette flore bactérienne ?
S'il est utilisé,
il y a beaucoup de questions autour du tampon.
S'il est utilisé correctement, c'est-à-dire si on le garde pas trop longtemps, il n'y a pas de problème particulier à utiliser des tampons.
Et en revanche, par contre, il ne faut pas utiliser des tampons en dehors des règles, ni de serviettes, vous savez, un petit peu protectrices, pour vouloir anticiper, parce que tout ça, finalement, ça absorbe l'humidité locale ambiante et ça dérègle, ça déséquilibre la flore. C'est vraiment un des poisons de la flore méconnus. Mmh. Il y en a d'autres.
On va écouter justement un extrait de ce documentaire qui avait fait beaucoup parler de lui sur France 5 il y a quelques mois, Tampon, notre ennemi intime.
Le professeur Gérard Lina connaît le responsable du syndrome du choc toxique menstruel. Le tampon, qui permet à une variété particulière du staphylocoque doré, dont certaines femmes sont porteuses, de se développer.
Si le fluide menstruel est bloqué par un tampon dans le vagin et que dans le vagin, il y avait déjà du staphylocoque doré, le staphylocoque doré va utiliser le fluide menstruel comme milieu de culture. Et c'est probablement ce qui se passe au niveau du vagin. On voit qu'autour des colonies, là, le sang a été détruit par la bactérie qui a produit des toxines qui détruisent les globules rouges.
20 à 30% des femmes sont porteuses du staphylocoque doré. Chez certaines, il va justement libérer cette toxine extrêmement dangereuse et déclencher une infection généralisée.
Ces toxines qui passent dans le sang activent le système immunitaire de façon massive et en fait vont être responsables d'hypotension, de choc, de fièvre, d'éruption cutanée. Et si on ne prend pas en charge correctement cette maladie, on peut en mourir.
Jean-Marc Bobo, il y a eu beaucoup de réactions dans votre cabinet de gynécologue, infectiologue, justement après la diffusion de ce documentaire là autour du tampon.
Oui, bien sûr, mais il suffit de remettre un tout petit peu les conseils d'utilisation au goût du jour, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais garder un tampon en début de règle plus de 6 heures, il faut essayer de le changer toutes les 4-5 heures. C'est pas tellement le tampon en lui-même, c'est la mauvaise utilisation du tampon qui risque de provoquer des problèmes. Donc il faut redonner tout simplement ces conseils de base, ces conseils hygiéniques, de ne pas utiliser n'importe comment les tampons, ne pas les garder trop longtemps.
Anne nous dit, je suis effaré de ce qu'on a entendu récemment sur la fabrication des tampons, ce qui corrobore mon intolérance à ces tampons depuis plusieurs années. J'ai 47 ans et je serai sans doute prochainement débarrassé de ce problème des règles, mais qu'est-ce que je dois conseiller à mes filles, justement, c'est ce que vous venez de dire à peu près.
Alors, on a dit effectivement qu'il y avait dans les tampons, il y avait des polluants, il y avait des toxiques. Les quantités qu'on a retrouvées sont des quantités extrêmement faibles, et le fait de retrouver ces toxiques en quantité très faible présume probablement d'un passage extrêmement mineur au niveau de la circulation sanguine. Ce qui me gêne le plus dans cette histoire-là, c'est qu'il faille qu'on fasse des enquêtes extérieures pour découvrir ce genre de choses. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit hyper dangereux, mais ça serait bien que les industriels prennent un peu la mesure et nous disent la vérité avant qu'on la découvre nous-mêmes.
Des questions autour de la pilule et du microbiote. Virginie nous dit, quelles sont les réactions négatives que pourrait provoquer le fait de prendre la pilule pendant des années sur notre microbiote vaginal ?
Tout dépend de la pilule. Il y a des pilules qui sont très faiblement dosées en estrogène et qui sont très probablement très utiles pour des femmes jeunes en particulier, qui ne donnent pas suffisamment d'estrogène dans le vagin et donc ça déséquilibre un tout petit peu le vagin. Et puis on a des pilules à base de progestérone qui elles aussi peuvent déséquilibrer. Mais là aussi, il faut réadapter. J'allais dire que le microbiote de chaque femme est bien particulier et la contraception de chaque femme doit être discutée avec chaque femme.
Rika et Étienne, le stress, le tabac, tout ça, les antibiotiques,
sont des poisons.
C'est assez délétère pour
le stress. On commence à s'intéresser à ça et à étudier ça. En tout cas, on s'était rendu compte, d'après une étude que nous citons d'ailleurs dans le livre, que on s'était rendu compte que les personnes qui étaient stressées avaient des troubles de la flore intestinale. Hein, je dis bien intestinale. Et on a vérifié si c'était le cas aussi sur la flore vaginale. Et de fait, l'étude a montré que les personnes qui étaient stressées, avaient davantage de mycoses, cystites, vaginoses, sans doute liées au stress de la flore. Alors, sans doute liées à la chute de l'immunité. Jean-Marc, je ne sais pas si on en sait un peu plus depuis qu'on a publié le livre.
Les femmes stressées, alors je parle du stress chronique, hein, le stress ponctuel, c'est pas dramatique, mais le stress chronique, il y a une augmentation de la production de cortisol et d'autres hormones qui peuvent diminuer un petit peu l'immunité.
Antibiotiques et tabac, là aussi vous insistez beaucoup là-dessus.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très mal connu, y compris par les médecins, c'est que le tabac n'a pas simplement des effets délétères sur l'arbre respiratoire ou cardiovasculaire, c'est très mauvais pour le vagin et c'est un facteur de déséquilibre majeur de la flore vaginale.
Vous parlez des poisons de la flore, vous, carrément.
Oui, absolument. Parce que ça empoisonne la vie des femmes.
Et les antibiotiques, c'est important, vous les citez, mais faut pas taper trop fort non plus dessus, on va dire. C'est parfois on est obligé d'en prendre. Ouais. Donc quand on prend des antibiotiques, il faut soutenir peut-être la prise antibiotique avec des probiotiques qui vont venir en soutien. Mais peut-être c'est intéressant de préciser quand prendre ces fameux probiotiques.
Les probiotiques, il faut bien comprendre qu'il y a des probiotiques pour l'intestin qu'on prend par voie orale et les probiotiques vaginaux qu'on doit mettre dans le vagin. On les prend en même temps que l'antibiotique et on continue une semaine après pour rééquilibrer la flore.
On va écouter un assemblage réalisé par Fanny Beaumont bouillon de publicité autour justement de conseils pour la toilette intime.
Êtes-vous vraiment sûr de votre fraîcheur intime? 3 heures après votre douche? Avec la fraîcheur du gel Amishna, vous restez sûr de vous toute la journée.
Découvrez la pure fraîcheur. Les nouveaux protèges slip neutralisent les odeurs au lieu de simplement les masquer.
Miner vous offre une sensation fraîcheur longue durée. Des micro-fresh pearls, une sensation de sec, un contrôle des odeurs.
Amishna, fraîcheur et protection du matin au soir.
Mieux que la fraîcheur, la pure fraîcheur.
Voilà, c'est intéressant ce florilège avec cette fraîcheur qui revient à tout bout de champ.
Et qui est un véritable poison finalement de la flore. Parce que le fait de se pulvériser avec un déodorant intime, c'est ça attaque la flore directement, donc il ne faut pas le faire.
Et puis c'est ultra culpabilisant quand même, d'avoir toujours cette impression de ne pas être frais.
Ah oui, c'est vrai, l'injonction.
Oui, mais vous savez, je pense que c'est une tendance de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les odeurs génitales. En général, notre société maintenant déteste les odeurs corporelles. Il va falloir les réhabiliter parce que ça fait partie de notre environnement et de notre fonctionnement.
Il y a un mouvement unwash en ce moment.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça.
Vous le citez aux États-Unis en particulier.
Et qui arrive en France. Et donc.
Donc, pas laver, c'est ça?
Exactement, pas laver. Pour la toilette corporelle, donc aller 2 fois par semaine comme faisaient les anciens, on va dire. Mmh. Mais la question que j'ai posée à Jean-Marc, qui m'a quand même. Ça m'a interpellée, je lui ai dit oui, mais bon, pour le vagin. Jusqu'où peut-on aller dans le unwash?
Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir pour terminer.
Allez, une toilette par jour, ça suffit, avec un produit doux, surtout pas d'antiseptique, et pas de toilette interne, pas de toilette vaginale. Le vagin est auto-nettoyant. Donc, on ne met rien dans le vagin.
Absolument.
Au niveau de la toilette.
Donc, attention aux produits aussi qui sont utilisés.
Absolument, des produits doux et pas d'antiseptique.
Ouais. Il y a une information qui est très importante aussi en direction des professionnels de santé, parce que finalement, il y a une méconnaissance aussi qui concerne les médecins ou les infirmiers eux-mêmes.
Je le constate malheureusement tous les jours, et c'est bien pour ça que j'aimerais bien que beaucoup de professionnels de santé, sages-femmes, infirmières, etc. puissent lire ce livre.
En tout cas, c'est le tout premier qui sort sur ce sujet, et vous le signez donc docteur Jean-Marc Bobo et Rika Etienne, c'est chez Marabout, microbiote vaginale, cette révolution rose, comme vous la nommez, et comment ces nouvelles découvertes sur la flore transforment la santé intime. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci,
énormément
merci.
De messages sur le site de La Tête au Carré. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints cet après-midi.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et ce soir dans Science grand format à 20h50, nous prenons la direction du Pérou. Bonjour Amandine Picot.
Bonjour.
Pour nous rendre Amandine sur le site du célèbre Machu Picchu, site Inca.
Tout à fait. Oui, un superbe site vertigineux qui est très souvent dans les nuages. Donc on va suivre l'archéologue en chef du Machu Picchu qui s'appelle José Bastante. Donc il va nous guider tout le long du documentaire pour nous révéler les dernières découvertes qui ont eu lieu sur le site.
Alors les Incas c'était de grands bâtisseurs et le Machu Picchu c'était une sorte de temple du soleil, c'est ça?
Oui, tout à fait. Il taillait des blocs de granit avec une grande précision et les constructions ont résisté à de nombreux séismes. Ils avaient mis tout en place un système hydraulique pour pouvoir irriguer leurs cultures qui étaient bâties sous forme de terrasses.
Mmh.
Cette eau précieuse était aussi utilisée pour leurs rites sacrés. Et les archéologues ont découvert récemment que les Incas étaient très prévoyants parce qu'ils avaient taillé des blocs de canalisation de secours. Et on en retrouve un petit peu partout sur le site du Machu Picchu. Et en fait, ils pouvaient vraiment pas se permettre d'avoir des infiltrations, ils étaient tellement coupés du monde. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont construit de nombreuses routes.
Eh bien justement, on écoute un extrait, Amandine, de ce documentaire ce soir sur le Machu Picchu.
Les routes incas sont la véritable colonne vertébrale de l'Empire.
Les Incas avaient jalonné ces voies de relais distant d'une journée de marche. Ces points de contrôle surveillaient étroitement l'accès aux routes. Des coursiers officiels, les chasquis, se relayaient en courant entre les différents sites et pouvaient ainsi livrer un message à 1600 km de distance en moins d'une semaine. En à peine un siècle, l'Empire Inca a connu une expansion formidable. Il a construit 40 000 km de route, l'équivalent de la circonférence de la planète.
Et donc longtemps, les scientifiques, Amandine, ont cru que les Incas n'avaient pas de système d'écriture. C'est un autre aspect du documentaire qu'on découvre.
Oui, tout à fait. Et c'est l'anthropologue Sabine Hyland qui a étudié de nombreux objets que l'on appelle des quipus. En fait, ils sont composés de petites cordelettes et de nœuds. Et à l'instar de la pierre de Rosette qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes en Égypte, elle a compris que ces quipus consignaient des informations comptables ou certains des informations biographiques ou même des récits. Et ce qui est super, c'est qu'il reste encore énormément de ces petits objets qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Donc on a encore plein de choses à apprendre sur les Incas grâce à ces objets.
Voilà, Machu Picchu, le secret des Incas, donc ce soir. Et puis juste après, un deuxième documentaire sur les Mayas.
Oui, un deuxième documentaire sur les Mayas et plus spécialement sur la Grande Pyramide. Et c'est l'archéologue Memo de Anda qui est vraiment très chaleureux et qui va nous emmener dans sa quête d'indices pour nous expliquer tous les secrets de construction des Mayas, civilisation bien plus ancienne que celle des Incas.
Merci Amandine Picot. Rendez-vous ce soir France 5 à 20h50. Bonne journée à vous. Et merci à Maxime Ingrand et Élise Christophe qui étaient à la technique.